RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Il reste 13 minutes pour vous inscrire pour le jeu. 13 minutes pour m'envoyer vacances par SMS au 732-16 et gagner les vacances All Inclusive Premium avec Bellambra. 13 minutes pour m'envoyer vacances par SMS 732-16. Et ensuite, vous choisirez mer, montagne, campagne, comme vous voulez, en famille ou entre amis. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, face aux grandes gueules.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Vous savez, hier, on annonçait ce mouvement de colère du syndicat Alliance qui appelle les Français à venir manifester à leur côté demain, samedi, devant les commissariats, notamment pour dénoncer leurs conditions de travail. On va développer tout ça maintenant avec notre invité Fabien Van Amelric, qui est secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de la manif de demain, on n'y arrive pas quand même. Hein. On n'y arrive pas. J'ai regardé les refus d'obtempérer, chiffres sur l'année 2025, plus 11%. Ça fait quasiment 30 000 refus d'obtempérer chaque année.
Ah, c'est sûr qu'on n'y arrive pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire, sinon on ne serait pas obligé d'aller dans la rue notamment pour crier l'alerte qu'on crie et qu'on demande l'aide aux citoyens. Donc il n'y a pas que malheureusement les refus d'obtempérer, c'est tous les chiffres augmentent encore une fois
violence
cette année,
aux personnes.
Entre 5, 7, 11 points des fois, mais ça va faire que perdurer malheureusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on manifeste et qu'on se mobilise et
mais
qu'on demande l'aide.
Pourquoi on n'y arrive pas?
Mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a plus les moyens d'y arriver. Et nous, on en est conscients. Et en tant que flic et bon syndicat, certes, parce qu'il faut bien une initiative d'une organisation syndicale. Alors c'est le bloc CFE-CGC, il y a Alliance, mais il y a toutes les composantes d'Alliance. Ça dépasse le clivage syndical. C'est tous les flics qui concernaient l'appartenance syndicale, c'est autre chose. Nous, on a la responsabilité de crier au loup en disant les citoyens, faut nous aider parce que demain on n'y arrivera plus. Et assurer la sécurité des personnes et des biens aujourd'hui, c'est plus possible.
Oui, mais je reprends mon exemple du refus d'obtempérer. C'est pas un problème de moyens. C'est le fait que des gens ne respectent pas le contrôle policier.
Parce que t'as frappé le gamin si jamais tu le chopes.
Oui, enfin ça c'est dans le permettez-moi, mais ça c'est dans les livres. Aller en tôle parce qu'on frappe quelqu'un, ça fait bien longtemps qu'on n'y va plus en tôle.
Mais alors là, du coup j'allais dans votre sens, c'est dans le sens si vous êtes un peu trop virulent avec la personne qui fait un refus d'obtempérer.
Ah, on est d'accord. Excusez-moi,
voilà.
J'avais pas compris.
C'est pas grave.
Mais
on comprend pas toujours, Laura.
Oui, non mais voilà, vous n'êtes pas le premier, vous serez sûrement pas le dernier.
Écoutez, en tout cas voilà, je ferai attention la prochaine fois. Mais donc Madame a raison. Non, ce qui se passe c'est que malheureusement vous avez raison. Il s'agit pas que de moyens, il s'agit de rendre le pouvoir à la police nationale, c'est-à-dire pas avoir peur de la police et du policier, c'est juste que le policier soit respecté, considéré, et c'est-à-dire qu'il y a des refus d'obtempérer, il ne devrait pas y en avoir. Vous faites contrôler par la police, ça vous est déjà arrivé, vous, moi et d'autres, vous vous arrêtez. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a peur de rien, c'est-à-dire qu'il ne nous arrivera rien quand on ne s'arrête pas. Et derrière, il y a l'impunité, alors évidemment, il y a le fameux procès ou la phrase que j'ai dit il y a quelques années déjà, le problème de la police et la justice, mais c'était une phrase caricaturale qui permet le débat de salutaire qu'on n'a toujours pas d'ailleurs réglé.
Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la justice n'est pas assez sévère.
Mais c'est exactement ça. Et si on veut être vraiment réaliste et objectif et pas idéologique, il suffit juste de prendre les vrais chiffres. Et on va prendre ceux de la justice, comme ça on sera pas emmerdé, on pourra pas dire qu'il y a des polémiques syndicales ou quoi que ce soit. Vous agressez un flic, refus d'obtempérer, mais vous agressez un policier de manière générale, les forces de l'ordre. Vous prenez 7 ans. C'est le code pénal, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué, c'est dans la loi, 3, 5, 7 ans, mais généralement 7 ans. La peine moyenne ferme prononcée, chiffre justice, quand vous agressez un policier, c'est 8 mois. Donc c'est une peine moyenne.
Alors que vous pourriez prendre jusqu'à 7 ans.
Et voilà, vous savez, Radio Police chez eux, ça marche de la même façon que chez nous.
Quand vous prenez 8 mois, vous passez pas une journée en prison parce que vous êtes dispensé de peine en général.
Vous avez
exactement. Il y a un aménagement de peine sur.
Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement, malheureusement, ce que voit le citoyen tous les jours. C'est-à-dire que le citoyen n'arrive pas à comprendre celui qui, j'allais dire, qui se lève le matin, qui va bosser, qui paie ses impôts. Forcément, lui, il va avoir des personnes interpellées une fois, deux fois, 20 fois. Au bout de la 20e fois, il sera toujours dehors. Et c'est ça que comprend pas le policier. C'est-à-dire que, imaginez-vous.
Donc, quelles sont vos revendications? Je comprends pas.
Nos revendications, elles sont très simples. C'est redonner le pouvoir aux policiers et que ce soit un signal fort, notamment dans le sens de la réponse pénale. Il doit y avoir une réponse ferme donnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le quantum de la peine n'est jamais suffisant. On avait obtenu, rappelez-vous, il y a quelques années, l'observatoire de la réponse pénale, la peine encourue, la peine prononcée, la peine réellement effectuée. Regardez la peine encourue, regardez la peine réellement effectuée, vous verrez qu'il se passe plus rien. Ça, c'est la première chose. Et après, donner les moyens aux policiers, matériels et effectifs, pour lutter contre cette délinquance qui est de plus en plus difficile et de plus en plus riche, avec le narcotrafic notamment, et nous avec du matériel qui est devenu obsolète. C'est-à-dire que vous combattez pas un fléau avec rien. Aujourd'hui, mes collègues, ils tournent sur une circonscription de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Vous connaissez aussi bien que moi les circonscriptions. Ils ont un véhicule. Ils ont un véhicule, ils sont trois dedans. Quand vous rentrez dans un quartier qui est plutôt compliqué et que vous vous retrouvez avec 20, 30, 50 individus à coups de mortier et qu'ils seront d'une façon impunis, donc ils sont prêts à tout pour tuer du flic, mes collègues à trois, c'est pas possible. Et quand ils appellent du renfort, il y en a pas parce que malheureusement, ils ne sont pas là. Il n'y en a pas d'autres.
Mais là, cette journée de mobilisation demain, c'est pour dire aux Français, soutenez-nous, soyez avec nous. Mais on a vu sur les réseaux sociaux, on a montré des images hein, d'ailleurs hier, les commissariats qui sont en mauvais état, les locaux qui sont parfois même insalubres, j'utilise le mot à dessein, du matériel qui est obsolète. Mais c'est la généralité, c'est le quotidien vraiment de la police ou vous mettez juste ces images pour marquer les esprits?
Non, justement, on préférait marquer juste histoire de faire de la posture syndicale, mais là c'est pas le cas du tout. Et encore une fois, on n'est pas dans une logique syndicale, on est dans une logique citoyenne et on est flic avant tout, avant d'être syndicaliste. Les locaux, c'est 80% des commissariats qui sont comme ça. Vous connaissez tous un commissariat, regardez dans l'état où ils sont et regardez même l'état des vestiaires de mes collègues ou l'état de délabrement, d'humidité, d'inondation, de vétusté, d'insalubrité. Pour certains, prenez les belles boutiques de prestige, de l'institution, prenez la préfecture de police. Ouvrez la machine à café de la préfecture de police. Bon, elle a peut-être été nettoyée parce qu'on le dénonce depuis deux jours, mais il y a des cafards dedans. Eh ouais, même à la machine à café. Donc aller dans n'importe quelle toilette d'un commissariat, mais les toilettes pour le personnel, donc pour les fonctionnaires de police. Sur deux, trois urinoirs, quand il y en a un qui marche et qui n'est pas bouché et qui ne déborde pas, c'est déjà bien. Les douches, elles sont obsolètes, elles n'existent pas. Ça, c'est le constat logique, malheureusement.
Il y avait déjà eu balance ton commissariat il y a combien d'années maintenant? Rien n'a changé ou peu de choses ont changé?
Rien n'a changé parce qu'on fait des coupes budgétaires où on dit que, on fait croire qu'on augmente le budget de la police. Alors ça, c'est vrai. Le chiffre augmente, mais il augmente pas en adéquation avec la situation. Donc on pourra, c'est des milliards qu'il faut. Et aujourd'hui, la sécurité, normalement, elle n'a pas de prix. Et la sécurité, c'est un ensemble. C'est du matériel pour se protéger, pour sauver des personnes aussi, évidemment. C'est du matériel aussi adéquat pour lutter contre la criminalité. C'est des locaux dignes de ce nom pour recevoir les victimes. Parce que je vous assure que des fois, quand vous recevez des victimes, une femme qui s'est fait agresser, vous la recevez dans un couloir dégueulasse où vous n'avez même pas de bureau pour la faire asseoir. Parce qu'on oublie toujours les victimes. On parle toujours des individus, mais les victimes, elles, malheureusement, ça pullule dans les commissariats de par les agressions. Et cela, on a tendance à moins...
Parce que le budget de la police nationale, c'est 18 milliards et demi. C'est quasiment même 19 milliards.
Oui.
Donc ça en fait de l'argent quand même.
Ça en fait de l'argent, mais malheureusement ça ne suffit pas.
Un exemple concret, parce que là on voyait des photos avec des toilettes, des murs qui sont cassés, la peinture qui s'effondre. Quand vous demandez de manière basique, tiens, est-ce qu'on pourrait refaire les toilettes ou refaire le mur? C'est quoi le process et ça prend combien de temps?
Bah ça c'est le process. Alors c'est toute l'administration comme ça. C'est pas que la police, c'est toutes les institutions sont malheureusement logées à la même enseigne. Donc je pourrais parler.
Ah non, pas le Louvre. Ah, le Louvre, oui. On a une jolie salle à manger très rapidement.
Ouais, ça vous avez raison. Mais en tout cas, voilà, moi je parle du peuple, des collectivités territoriales ou l'institut, enfin ou l'hospitalière ou les pompiers. Ou, malheureusement, après ça marche avec des appels d'offres. Mais nous, on est bon dans l'administration. C'est que vous voyez, je me mets dans l'eau. Je dis nous parce que c'est eux qui me payent. Nous, on est bon, c'est qu'on ne trouve jamais les bons appels d'offres. Jamais les bonnes entreprises et toujours les plus chères qui font le travail le plus pourri. Je résume, mais c'est un peu ça.
En combien de temps en plus?
En des mois et des mois et des mois. C'est réel et on peut en donner 300 exemples. Encore une fois,
il y a pas de corruption.
J'exagère pas. C'est-à-dire que on va nous dire qu'il y a des nouveaux commissariats qui ont été créés. C'est vrai. Trouvez-moi un commissariat qui a été créé, un seul en France, qui a été créé où il n'y a pas une seule malfaçon. Il y a des malfaçons partout. C'est-à-dire que moi, je m'en rappelle encore il y a quelques années parce que on a rénové le parc immobilier depuis quelques années. Il y a eu de l'argent, hein. Prenez des commissariats à Paris qui ont été rénovés il y a quelques années, dès le début de leur création. Il y avait de l'eau de partout, dès qu'il pleuvait.
C'est dingue, ça.
Et c'est ça, notre problème. Je ne sais pas où on trouve nos architectes. Je ne sais pas où on trouve nos sociétés pour confectionner et fabriquer et construire tout ce qu'on a besoin de construire. Mais ce qui est valable pour l'immobilier est valable pour la dotation individuelle. Regardez la polémique, à l'époque sur les batteries des radios. On n'avait rien trouvé de mieux que trouver les batteries les plus pourries. Qui se déchargent. Mais pour les caméras piétons, où les batteries se déchargeaient, il a fallu faire un premier appel d'offres avec des millions à dépenser. Et au final, on a enfin corrigé le tir, mais après avoir des millions d'euros dépensés. Mais un autre exemple,
allez-y.
Le plus client,
j'attends avec impatience.
Bah, le logiciel de procédure, l'investigation, ça fait des lustres qu'elle attend malheureusement de pouvoir souffler, parce que vous avez quand même 3 millions de procédures en attente, hein, qui s'accumulent, et vous avez 4 300 000 environ procédures annuelles qui arrivent. Donc imaginez déjà le retard, et imaginez le retard qu'il y aura dans quelques années. Et vous avez un logiciel qui plante, alors qu'il a coûté des millions d'euros, qui plante tous les deux jours. Mais ça, vous demandez à n'importe quel collègue d'investigation, il va vous le dire. Tous les deux jours, ça plante. Donc, tous les deux jours, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, tous les deux jours, ils doivent faire des supports papier avec des imprimantes qui ne marchent pas mieux. Mais pire, quand ça fonctionne, normalement, c'est numérisé, on gagne du temps. Parce que le but du logiciel, c'était celui-ci, gagner du temps. Et ben là, c'est des parquets, certains parquets. Mettons pas la justice tous au pilori. Certains parquets vont vous demander des supports papier, au cas où. Donc, on ne s'en sort plus. C'est-à-dire que mes collègues d'investigation, aujourd'hui... alors attention, évidemment qu'on va parler rémunération, on va parler d'indiciaire, d'indemnitaire. Aujourd'hui, avoir envie d'être flic, c'est pour ça qu'on a le moins.
Et vous n'êtes pas trop mal payé quand même.
Ouais.
Le salaire moyen d'un policier,
vous les connaissez?
Bah, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, je ne les ai plus en tête, mais je me suis dit, c'est pas si mal payé.
Alors, ah bon?
Ça a été augmenté.
Je sais pas.
Vous avez été augmenté pendant les Gilets jaunes.
Est-ce que ta vie quand
pendant les gilets jaunes. Alors moi, je vais vous donner les salaires, les vrais.
Je me souviens, à Castaner, vous avez augmenté.
Ouais, de 120 euros brut. Mais
non, plus
si,
que
si,
ça.
De 100 euros brut, c'est nous qui l'avons obtenu en une demi-journée avec une action.
En décembre, des gilets jaunes, je m'en souviens.
Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner juste le vrai salaire sur la grille de la fonction publique du gardien de la paix qui la touche tous les mois. Là, c'est la vraie.
Non, mais là, le gardien de la paix, c'est la première année. Moi, donnez-moi au bout de 10 ans de carrière.
Vous savez, je connais tous par cœur, donc je vais vous donner un an, ça prend 10 ans.
Donnez-moi le vôtre.
Alors, allez, 1, 5, 10, 20.
Je vais vous donner exactement tous. Et d'ailleurs, si je vous donne le mien, vous allez me donner le vôtre aussi.
Ah
après.
Non, parce que moi, je suis pas fait par les.
Alors, 1, 5, 10, 20, on y va.
Et on pourra comparer l'un et l'autre, et vous verrez, vous serez sûrement plus riche que moi, la
plus fonctionnaire.
Mais les baveux, ils gagnent beaucoup plus.
Mais en même temps, surtout,
je pense
surtout
que j'ai
un avocat.
Pas le même temps de travail.
Mais, ah, bah alors, si vous voulez, on peut comparer. Moi, depuis 5h30, je suis là, et à 22h, je suis encore là.
Je suis là depuis très tôt, vous savez, j'ai fait la matinale aujourd'hui.
Si je fais le ratio de mon salaire avec le nombre d'heures, je suis même pas payé comme un chinois, monsieur.
Mais bon. Alors, on y va pour la
Chinois sont de mieux en mieux payés.
Alors, on y va.
Vous avez raison.
Gardien de la paix.
En tout cas, le gardien de la paix, il commence à 2000 euros net par mois. 2000 euros net par mois en travaillant les samedis, les dimanches et les soirées. Au bout de 10 ans de carrière, il est toujours gardien de la paix parce qu'il faut passer un examen pour être brigadier chef. On a, grâce à l'administration et grâce aux organisations syndicales, vous voyez, je dis aux organisations syndicales, on a enlevé ce grade de brigadier et on passe directement en brigadier chef. Si on passait notre temps à passer des examens pour gagner 100 balles. Le gardien de la paix, au bout de 10 ans, il fait 2400 euros net par mois. Toujours en risquant sa vie tous les jours, toujours avec ce côté létal, toujours en étant sur la voie publique tous les jours et en travaillant évidemment les samedis, dimanches.
Et vous avez quel âge à ce moment-là? 30, 35 ans?
Vous rentrez dans la police maintenant un peu plus tard parce que vous faites des études, donc vous rentrez allez en moyenne à 23, 24 ans et vous faites 10 ans. Il est en train de regarder si je dis vrai, mais
oui, je regarde les chiffres. En fin de carrière. Non, je vois que l'officier de police. Mais moi, je veux pas faire de polémique. Je dis juste que. Ça fait des années qu'on entend, et je veux bien l'entendre, les policiers qui demandent toujours plus de moyens. On a envie de leur donner toujours plus de moyens. Évidemment qu'on les soutient. On a envie de toujours plus les payer, de leur donner toujours plus de moyens.
Ils demandent jamais plus de salaire, ils demandent plus de moyens utiles.
Je pense d'ailleurs, je suis étonné que vous alliez pas là-dessus, je pense d'ailleurs qu'il faut leur lâcher la grappe un peu avec les exigences procédurales, et c'est un avocat qui parle, pour les rendre plus efficaces, je pense qu'il faudrait un cadre un peu plus souple pour l'investigation. Ça, c'est un autre sujet, mais je pense que déjà, ça leur faciliterait le boulot.
Et l'allègement de la procédure,
mais de l'argent, on veut en donner aussi aux hôpitaux, on veut mieux payer nos infirmiers, nos infirmières, nos médecins, on veut en donner aux professeurs, on veut mieux les payer pour qu'ils passent plus d'heures.
Par exemple, on veut pas en donner aux ruches, au Togo.
On a voulu en donner aux juges, on leur en a donné, d'ailleurs. Les juges ont tous été augmentés de manière très sensible pour le coup ces derniers temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression quand même que ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur, c'est quand même toujours assez prioritaire, la police en France, en vrai.
Ah bon?
Excusez-moi, prenez les dernières années. Darmanin, on a quand même fait un énorme sujet. Retailleau, on a fait un énorme sujet. Aujourd'hui, Nunez, il est peut-être un peu plus calme. Mais enfin, quand même, c'est un, sous calme, Sarkozy, on vous a doté de tas de trucs.
Sarkozy, là, il a supprimé des postes.
Excuse-moi,
Charles,
il a fait une erreur de supprimer des postes.
Non, non, mais attends.
Charles. Les Français sont quand même du côté de leur police dans
les
autres
choses. Pas l'État, donc.
Charles, pardon. Factuellement, Sarkozy a supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police. Et ensuite, on était dans le rattrapage. Mais il y a moins de policiers en France par habitant qu'en Allemagne, par exemple. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui est, c'est le taux d'encadrement.
Et
tous les Français se plaignent régulièrement, sauf peut-être les délinquants, qu'il n'y ait pas assez de policiers en patrouille, visibles, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de policiers d'une manière générale. Vous êtes combien? Il y a combien de policiers en France?
100 000.
100 000, voilà, pour une population qui ne cesse de grandir. Bon.
Et d'ailleurs, ça fonctionne. Quand on met du flic dans la rue, quand on met du bleu dans la rue, on l'a vu aux Jeux Olympiques.
Exactement. Sauf qu'on n'a pas les moyens de faire ça tous les jours.
On était content, mais ça coûte énormément d'argent. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez un bon salaire ou quoi, mais moi, je n'ai jamais
voulu
qu'un
infirmier est bien payé. Je vais dans votre sens. Non, c'est juste que je me dis, bon, où est-ce qu'il faut vraiment pousser?
C'est ça que j'aime bien dans ces missions, c'est que ça permet au moins de s'exprimer.
Mais tu regardes, moi, j'ai.
Où il faut s'améliorer, c'est malheureusement. À tout niveau, j'ai pas dit qu'on avait jamais été augmenté. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, on n'avait pas envie d'être flic. Pourquoi? Parce qu'il fallait obligatoirement avoir la vocation et avoir vraiment la foi. Parce que quand vous prenez la foudre tous les jours, quand vous prenez la dangerosité du métier, quand vous prenez le côté létal, quand vous prenez donc l'impunité qu'on connaît, qu'on a dit tout à l'heure, et quand on voit le salaire qu'on touche, si vous paraît décent, tant mieux. J'ai pas dit que celui-là de l'infirmière l'était, il l'est pas du tout pour moi et pour le prof non plus, qui vit la même foudre. Mais quand vous touchez 2000 balles par mois et que, allez, au bout de 20 ans de carrière, voire 25 ans, vous en touchez que, plutôt 25 ans même, 3000, 3000 euros par mois, 25 ans de carrière.
Sauf si vous montez en grade quand même. On peut faire carrière dans la police.
Vous confondez les corps. Vous confondez le corps des gardiens de la
paix. Brigadier, là je vois officier de police.
Mais officier de police, c'est le corps des commandants et des officiers. Ça n'a rien à voir. Moi je vous parle du gardien de la paix, le flic là. Vous voyez ce qu'on voit sur là. Eux, je vous parle du bleu dans la rue. Du major, vous voyez, major, c'est moi. C'est 3500 balles, net. 32 ans de police. Et je suis un des mieux lotis, objectivement, parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec vous et de défendre mes collègues. Mais j'ai des majors comme moi qui sont sur le terrain et qui prennent la foudre tous les jours dans les véhicules pourris dans lesquels nous sommes. Et ils ont 30 ans de police.
On va continuer d'en discuter avec Fabien Van Amelric. On parle de la police, des conditions de travail, de l'appel à manifester demain, puisque demandons aux Français de le rejoindre devant les commissariats, de venir apporter leur soutien. Question d'Abel Boyi dans un instant, de Laura Varton-Martinez. Juste le temps de passer au 32-16 là à 11h20, parce que c'est l'heure d'accueillir la gagnante Anne-Lise. Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour Anne-Lise de Haute-Marne, c'est vous qui avez gagné les vacances Bellambra.
Ah, je suis trop contente.
Madame l'agricultrice de Haute-Marne, félicitations, vous avez gagné le séjour Bellambra, all inclusive, pardon, tout compris et en premium.
Oh, génial, super, merci beaucoup.
Mer ou montagne, vous avez une petite idée?
Peut-être montagne.
Bah écoutez, faites-vous plaisir entre amis ou en famille, ma chère Anne-Lise. Bravo, félicitations. Merci de votre fidélité au GG.
Merci à vous, vous êtes génial, super.
Et on vous rajoute le livre des grandes gueules aussi, 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel, ma chère Anne-Lise. Bon, je vous embrasse, merci. Profitez bien de vos vacances, à bientôt.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Allez, suite des jugés dans un instant. On continuera à parler des conditions de travail de la police avec Fabien Van Amelric.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, on donne la parole à Fabien Van Amelric qui est avec nous aujourd'hui, secrétaire général du syndicat Alliance Police. Vous savez, c'est Alliance Police qui appelle à manifester demain, ou plutôt, ils veulent faire entendre la police, ils appellent les Français à venir soutenir la police, qui demandent des meilleurs moyens pour travailler. Il nous a expliqué tout ça, on va écouter les GG, les grandes gueules, Abel Boyi, Laura Varton-Martinez. Alors, question, qui veut s'en saisir? Abel, Laura, on y va?
Abel. Alors, déjà, Abel, est-ce que tu pourrais les manifester demain avec les policiers?
Bah oui, moi, je suis quelqu'un avec mon association. J'organise beaucoup de dialogues police-jeunesse. J'ai 6 policières et policiers qui sont intervenants dans ce sujet-là. Mais j'aimerais vous parler par rapport à la relation de la police et du politique. parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup servi de tremplin, en fait, pour des ambitions politiques. Et lorsque je discute avec un certain nombre de policiers et policières sur différents territoires, ils me disent souvent qu'il y a eu beaucoup de trompettistes au ministère de l'Intérieur à ce poste. Et que il y a par contre deux noms qui reviennent souvent. Il y a deux noms qui reviennent souvent comme ministre de l'Intérieur qui ont été assez appréciés, Bernard Cazeneuve et Gérald Darmanin. Je ne sais pas si vous le confirmerez ou pas. Et ne pensez-vous pas que cette instrumentalisation politique a beaucoup contribué à ce que le contact entre la police et une certaine partie de la population, parce que la majorité vous apprécie, c'est pas le problème. Moi, je parle de la jeunesse et d'une certaine partie de la jeunesse. Et pourquoi est-ce que je pose
jeunesse des quartiers.
Exactement. Même dans les campagnes. Dans les campagnes, ils sont extrêmement virulents aussi des fois. Et toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là vous diront, aucun jeune en réunion ne dit toute la police est raciste, la police tue. Il y a beaucoup de nuances. Ils disent qu'il y a des bons, il y a des mauvais, comme dans toutes les sphères de la société, parce que l'être humain est comme ça. Donc, que pensez-vous de l'impact de l'instrumentalisation politique? Parce que j'ai l'impression par moment que la police a été l'idiote utile du politique.
Alors,
mais c'est oui, pour être très direct, bien entendu que la police sert à avoir un tremplin politique et médiatique. Quand on est ministre de l'Intérieur, on peut de même devenir président. Il y en a qui sont parvenus il y a quelques années, pour Monsieur Sarkozy notamment. Après, vous me citez Monsieur Cazeneuve, a été un très bon ministre. Il faut savoir dire les choses, même si moi je suis un syndicaliste. Monsieur Darmanin a été aussi un très bon ministre.
Ce sont les deux
ministre.
Noms qui sortent.
Et en effet, Monsieur Darmanin a lancé un plan.
Alors nous, on est dans les grandes gueules.
Plusieurs milliards.
Nous, on est dans les grandes gueules. Quels ont été les mauvais ministres de l'Intérieur?
Il y a eu des très mauvais aussi.
Lesquels? Quels ont été les trompettistes?
Récemment, les trompettistes, il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui a pas été très bon et qui a eu que des phrases maladroites. Enfin, qui se faisait le chaud et le froid, mais qui aimait bien la télé et les médias. C'était Monsieur Castaner, par exemple, pour ne pas le citer. Monsieur Collomb, il a jamais pris l'ampleur du poste, mais on va pas parler de lui aujourd'hui. Il pensait comparer trop la police nationale avec une police municipale. Bon, après, il y en a d'autres qui ont eu essayé de prendre la police pour un tremplin aussi politique, pour une vision, on va dire une ambition personnelle.
Mais Bruno Retailleau,
par exemple, voilà. Mais lui, il aimait les policiers, Monsieur Retailleau. Ensuite, il est pas resté longtemps. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème des ministres.
Et l'actuel, Laurent Nunez, il a été patron de la préfecture de police.
Non, Laurent Nunez connaît très bien les flics parce qu'il y baigne depuis des lustres. Moi, il m'a connu, j'avais 20 ans. Donc, et on s'est suivi. Bon, il a mieux réussi que moi, mais on s'est suivi à la préfecture de police.
Vous finirez peut-être un jour ministre.
Oui, oui. Enfin, comme on dit, si ma tante en avait, voilà. Et puis, c'est pas mon ambition. J'ai pas cette nature-là. Mais en tout cas, il a fini ministre. Alors, il connaît très bien la police. Je pense que il est peut-être il suit pas vraiment ses idées profondes. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, comme on est dans les grandes gueules. Je lui ai reproché pas plus tard que tout à l'heure de ne pas venir. Si je comprends pas pourquoi tu viens pas.
Demain à la manif.
Je ne vois pas pourquoi tu viens pas. C'est une manifestation citoyenne. Le premier soutien des policiers, c'est normalement mis à l'intérieur. Que tu fasses pas le cortège, que tu marches pas, mais que tu viennes pas 5 minutes pour montrer, écoutez, je suis avec vous, je suis avec le peuple policier, avec le peuple de manière générale. Je ne comprends pas. Darmanin, il est venu. Alors que j'ai dit, le problème de la police, c'est la justice.
Et pourquoi il vient pas? Parce qu'il veut pas s'afficher avec Alliance.
Qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Bah, il dit qu'il vient pas parce qu'il est pas dans le même contexte que Darmanin. Mais j'ai dit Darmanin, c'était des revendications syndicales. Retailleau, rappelez-vous, l'année dernière, on était à l'Assemblée nationale. Mmh. On a dénoncé le budget. Il faisait partie du gouvernement. Il nous a aidé à dénoncer le budget. Il était ministre de l'Intérieur.
Parce qu'aujourd'hui, on vous classe à droite. C'est pour ça. Parce que.
Je pense que, il est plutôt dans une tendance, pas de chure, pas de salade, comme à chaque fois. Et,
pas
je pense qu'il, voilà, il ne tranche pas assez. Et il aime les policiers, j'en suis certain. Et d'ailleurs, il a été bon sur une autre radio ce matin, sauf où quand il a commencé à trouver des excuses possibles, enfin impossibles, qui n'existent pas, en disant je ne viendrai pas pour telle et telle raison. Non, il doit le ministre de l'Intérieur, il fait une erreur monumentale. Je pense que les policiers vont s'en souvenir. Je pense qu'il se met un peu le doigt dans l'œil où il oublie que c'est un tournant. Cette histoire de mobilisation citoyenne qui n'existait pas, qui n'a jamais
existé. Pourquoi c'est un tournant?
C'est un tournant parce que c'est un ras-le-bol général. C'est le ras-le-bol du policier, mais à travers le policier, c'est le ras-le-bol du citoyen.
Donc en fait, ce qui est un tournant, c'est que c'est pas seulement des syndicats de policiers qui appellent à manifester. C'est, vous voulez que ça soit une marche citoyenne demain?
C'est une marche citoyenne en disant que, nous on le dit clairement, le pays va mal. Les institutions ne fonctionnent plus, le pays va mal, l'insécurité est omniprésente, qu'on veuille, c'est les chiffres qui le prouvent, d'ailleurs les derniers sont sortis et c'est une catastrophe, et l'impunité quasi omniprésente aussi.
Mais quand vous parlez de ça sans vouloir vous couper, ces trompettistes ont quand même influé sur votre communication. Je vais donner un exemple. Quand par exemple un policier ou une policière commet une bavure, ce qui peut arriver parce qu'on est dans l'humain, d'accord ? la communication de la police avant était d'avoir quand même un discours très corporatiste, en tout cas ça donnait cette impression où la police ne reconnaissait pas. C'est vraiment très récemment où on voit que publiquement on parle des enquêtes d'IGPN de façon plus libre. Est-ce que ces trompettistes aussi n'ont pas eu une influence sur la communication de la police et cette communication du coup qui a eu une influence sur la mauvaise impression que peuvent avoir certains jeunes sur votre corporation?
Non mais
très honnêtement,
il y a plein de trompettistes qui ont surfé sur des affaires policières.
Oui, mais par rapport à la communication, parce que là elles se libèrent.
Non mais
là,
le meilleur trompettiste, permettez-moi de le dire, le meilleur trompettiste, mais je suis pas là pour faire la politique, c'est Monsieur Macron. Monsieur Macron, rappelez-vous l'affaire Naël, hein, elle avait même pas commencé. Bien sûr qu'il y a une enquête, bien sûr qu'il y a un drame, et il y a un décès, et quelle que soit la personne, ça reste un drame. Mais la première chose qu'il a dit, c'était inexcusable, impardonnable. Déjà, il s'est mêlé de ce qu'il regarde pas, parce que l'enquête n'avait même pas commencé. Donc c'est tous des trompettistes, parce qu'ils saisissent tous la balle au bon, au moment opportun, pour faire plaire à une certaine partie.
Mais tout le monde a dit que ce n'est pas normal que ce jeune meure. Mais sans faire le débat, c'est par rapport à la communication de la police.
Je parle justement de la communication de la police.
Qui peut apparaître des fois trop corporatiste, jusqu'à camoufler certaines choses.
Je parle de la communication.
Est-ce que vous protégez trop?
Voilà, c'est ça. Comment?
Pour résumer ce que dit Abel, est-ce que la police se protège
c'est
trop?
L'impression
est-ce
qui
que vous
est
couvrez trop facilement? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit réflexe corporatiste des syndicats dès qu'il y a effectivement une affaire comme celle de Naël, vous faites corps pour protéger vos collègues?
Vous allez peut-être pas me croire, mais sincèrement, je suis sûr que non. Il y a des enquêtes de police tout le temps. Je pense que l'institution policière est la plus contrôlée. Quand il y a des sanctions, croyez-moi que les sanctions elles tombent des fois pour pas grand-chose. Et là, je vous parle pas de grosses affaires. Et elles tombent cruellement. nous, on fait partie de ceux. D'ailleurs, c'est nous qui le demandons, la présomption de légitime défense. C'est pas le permis de tuer. On dit juste que la parole du policier n'est pas reine. C'est-à-dire qu'elle doit être la seule parole qui compte au départ.
Vous êtes pour la présomption de légitime défense?
Bien sûr, et voyez, pourtant j'ai des...
Mais vous pensez pas que ça peut donner lieu justement à des débordements?
C'est la seule chose qui ne donnera pas lieu à des débordements, parce qu'il y aura l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ça sera l'individu interpellé d'expliquer qu'il est réellement victime, et il y aura une enquête en cours. On ne demande pas l'impunité du fonctionnaire de police, on dit que la parole du fonctionnaire de police est la première qui doit être prise en compte, et une fois qu'on a eu cette parole-là, on doit écouter celle des autres. C'est complètement différent. Et je vous assure, après, sur l'instrumentalisation, moi, ce qui me gêne le plus, c'est de nous cataloguer. Moi, j'ai des mecs de gauche à Alliance. C'est pas choquant. La sécurité.
C'est pas la majorité.
Mais bien sûr. Mais de toute façon,
c'est
dans la police.
Les poissons volants, ça existe.
Cette image de droite, voire d'extrême droite, il y a bien une raison.
Mais
pourquoi cette image?
Mais non, mais c'est ça justement, c'est l'image. La sécurité n'appartient pas à un parti politique. Aujourd'hui, les trompettistes ont fait en sorte que on dit quoi? Les mecs de droite sont pro-sécuritaires, les mecs de gauche sont anti-sécurité. Et c'est ça qui est gênant. Et maintenant, quand vous êtes pour la loi, l'application de la loi et de règlement, vous êtes forcément un facho et vous êtes forcément...
Alors que quand on l'interroge dans les sondages, il y a quand même une volonté d'avoir plus de sécurité à gauche comme à droite, hein, d'ailleurs.
Exactement.
Même chez les électeurs insoumis.
Après, il y a un programme politique où il est forcé de constater que quand vous êtes de droite, vous êtes quand même plus axé sur la sécurité que quand vous êtes de gauche. Et...
Laura, elle attend son tour depuis tout à l'heure.
Attention, ça va être fini.
C'est pour ça. Alors j'ai toujours été pro police. J'ai interviewé, j'ai appelé plus exactement pas mal de policiers quand j'ai fait certaines émissions. Et là où je trouve que Charles est très dur, c'est que à chaque fois que j'ai eu des policiers en ligne, c'était à aucun moment des revendications de salaire, donc salarial. On veut faire moins d'heures. C'était pas ça. C'était réadapter la formation, donc enlever ces 3 mois qui servent à rien et qui coûtent de l'argent avec une formation plus courte, mais plus intense, plus utile. Comme on t'apprend par exemple à l'école de police à te menotter, mais limite le mec il te tend les mains, menotte-moi. Non, il faut y aller un peu plus. Ils demandent des tasers, ils demandent plein de choses et on les écoute pas. Et encore une fois, quand Charles dit oui, mais on veut de l'argent pour l'hôpital, quel est le premier sujet en France, la première préoccupation des Français à l'heure actuelle? La sécurité. Donc j'estime que le peuple est souverain. Si c'est la première chose qu'il demande, on doit lui donner en dépit des autres, malheureusement. En revanche, je ne suis pas sûr. J'y serais allée tout le temps et je suis la première à défendre les policiers. Je ne sais pas si je serais allée manifester avec vous demain. Les manifestations pour les agriculteurs m'ont franchement blessée. Et il y a une image en particulier où je vous avoue que j'ai pas pleuré, je vais pas exagérer, mais ça m'a fait des frissons. C'est ce corporatif d'agriculteurs qui se met à chanter la Marseillaise devant un cortège de policiers. Et j'aurais aimé, comme vous voulez, que tous les citoyens soient avec vous, Je comprends que la plupart des policiers étaient dans leur rôle et travaillaient, mais un geste, peut-être enlever l'arme, la poser l'arme à terre pour dire aux
bah, ouais. Bien sûr, pour que tout le monde s'empare des armes posées par terre.
Mais alors, les policiers ont été trop durs avec les agriculteurs.
On parle souvent sur les agriculteurs. Alors, pour vous rassurer, vous verrez demain, mais je ne vais pas parler en leur nom, il y a eu des communiqués d'agriculteurs, donc de grosses coordinations, qui seront présents dans les cortèges pour soutenir les policiers.
Ah, mais bien
donc,
sûr.
Quoi, ça fonctionne quand même. Après, il y a eu des images. N'oublions pas qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'endroits où il y a eu des manifestants d'agriculteurs où ça s'est très bien passé. Il y a eu un ou deux endroits. Mais après, quand vous êtes flic, malheureusement, vous servez l'État. Quand on vous donne des consignes, qu'on nous dit, et moi je comprends mes collègues CRS, on nous dit maintenant, on disperse, c'est fini, on avance. Les collègues sont obligés d'avancer et de disperser. Ça, c'est un problème. Alors, il peut y avoir quelques échauffourées. Il y en a eu quelques-uns hier avec les pompiers. C'est pas pour ça que les pompiers ne s'entendent pas.
Pour
rebondir
sur ce que dit Laura, c'est que ça donne l'impression parfois qu'on dresse les Français les uns contre les autres, les policiers qui sont aussi des Français contre d'autres Français.
J'entends votre difficulté.
Des gens qui se ressemblent entre un agriculteur et un gendarme. Ce jour-là, il n'y a pas vraiment de différence.
Il y en a un qui nous protège, l'autre qui nous nourrit.
Les mêmes revendications.
Et j'entends Charles qui souffle, mais apparemment Charles.
Il y a eu cette histoire avec les gilets jaunes.
Moi, je déteste cette histoire. Ceux qui nous protègent, ceux qui nous nourrissent.
Ah bon,
c'est juste le lexique. Juste le lexique qui me.
Non, mais les gilets jaunes, par exemple, pour continuer sur cette idée, au moment des gilets jaunes, il y a beaucoup de gilets jaunes qui se retrouvaient maltraités, disent-ils, par les policiers. Or, les policiers peut-être pouvaient partager les mêmes revendications. On avait l'impression que finalement, on dressait les Français les uns contre les autres.
Et les gilets jaunes, si vous vous souvenez, il y a eu quand même plusieurs
gradations.
On était tous gilets jaunes au départ. Hein. Tous ceux qui galéraient, on était tous gilets jaunes. Moi, le premier, hein, quand vous allez faire vos courses à n'importe quel magasin à la fin de la semaine, et vous voyez la note et la facture, croyez-moi que c'est pas marrant pour tout le monde. Donc, on était tous. Après, il y a eu malheureusement une instrumentalisation des gilets jaunes, toujours avec une certaine idéologie. Et il y a commencé à avoir eu des frictions avec les policiers et les gilets jaunes. Bon, ça fait mal les gilets jaunes en termes de relations police-population, mais ça fait mal dans tous les deux sens. Rappelez-vous le boxeur qui a massacré mon gendarme. On a fait une cagnotte et il a obtenu des centaines de milliers d'euros. Il n'a pas été forcément en prison. Et quand il y a été, je vais pas rentrer, j'ai un devoir de réserve. Mais c'est un autre débat. Et quand on voit qu'à l'époque, on nous vendait 80% de peines de prison ferme, il faut savoir qu'il y en a personne qui a été en prison. Ça, c'est la vraie version.
Pendant les gilets jaunes ?
Oui, personne.
Personne n'est en prison. Personne.
Ils ont eu des peines alternatives, ils ont été en garde à vue, il y a eu des enquêtes, mais ils n'ont pas été emprisonnés, les gilets jaunes. Maintenant, le vrai gilet jaune, qui lui défendait son beefsteak, je pense qu'il n'a pas eu de problème avec la police. Celui qui voyait que ça commençait à chauffer et qu'il fallait disperser, généralement, quand vous êtes dans une manifestation, moi le premier, si ça se passe pas bien samedi matin, je dirais aux gens de partir, et qu'ils manifestent pacifiquement, si on voit que ça commence à dégénérer, parce qu'il y a des groupuscules qui peuvent s'infiltrer, comme toutes les... Vous en allez, vous prenez votre gosse, vous prenez votre femme, vous partez.
Merci. Merci Fabien de Vandemelric, secrétaire général du syndicat.
Donc demain, Manis, partout.
Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules. Il y a un cortège à Paris ou pas ?
Il y a un cortège à Paris.
Il y en a dans le Jura. Est-ce que dans le Jura, vous avez un cortège ?
Non, dans le
Jura. Charles, je serai dans le Jura, mais je serai ravi de venir soutenir les policiers.
Allez, je vous remercie. Je remarque que vous n'avez pas donné votre salaire. Moi, j'ai donné le mien en tout cas.
Mais je ne suis pas payé par l'argent public.
Suite des GG dans un instant. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, il nous reste 8-10 minutes de discussion ensemble, bien évidemment, au 32-16 avec Laura Varto-Martinez, avec Abel Boyi, avec Charles Consigny et avec vous, bien sûr. Devinez ce que font les GG pendant la pause. Certes, on discute, mais tout le monde est sur son portable. Bon, maintenant, c'est de toutes les manières, vous prenez les transports en commun, tout le monde est sur son portable. Dans la rue, tout le monde est sur son portable. Au bureau, quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous êtes sur votre portable, et même vous êtes devant votre ordinateur et votre portable en même temps. Et vous savez que là, maintenant, il y a le mois qui s'appelle Off February, ce qui veut dire que c'est le mois de février où on coupe. Est-ce que vous pourriez... Alors,
elle y arrive pas.
Oui, moi je sais même pas où on fait.
Elle contrôle même plus son doigt. Tu cherches quoi ?
Je cherche mon temps d'écran.
Ah, je croyais que tu cherchais à éteindre ton portable, tu savais pas comment faire.
Justement, est-ce que vous pourriez.
Pour répondre à la question.
Attends, est-ce que vous pourriez couper votre portable pendant le mois de février, être beaucoup moins sur les réseaux essentiellement ? Abel.
Très honnêtement, impossible. parce que le portable, on l'utilise pas que pour les divertissements. On travaille avec, on fait tout avec. Moi, je suis à une moyenne à peu près de 3 heures de temps d'écran par jour. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Je ne sais pas. Je consulte mes mails dessus. Et dans bien des situations, mon téléphone portable remplace l'ordinateur portable. Donc, m'en passer pendant plusieurs jours, pendant une semaine, 10 jours maximum, oui. Mais un mois, impossible.
Les Français passent en moyenne 1h48 sur les plateformes. Sur une année, ça fait quasiment 40 000 minutes. Et à l'échelle d'une vie, en prenant l'âge de départ de 15 ans, d'accord, pour être sur les réseaux sociaux, on considère qu'on passe 5 ans de sa vie à scroller à l'échelle du... Alors, est-ce que tu pourrais couper ou pas les réseaux pendant le mois de février? Oui,
non,
ou pas?
Non, pas le matin. Moi, mon rituel...
J'adore la précision.
Bah oui.
Bah
pas
oui.
Le matin.
Non, pas le matin. Bah, moi, là où je scrolle, c'est le matin avec mon café. Je scrolle. Après, le reste de la journée, je suis pas tant que
ça. Et le soir, en te couchant?
Ben, je regarde plus les conneries que ma mère m'a envoyées, parce que ma mère, par contre, elle scrolle à mort. Mais non, je suis plutôt team bouquin le soir, parce que
C'est bien, parce
mon téléphone, il est dans la salle de bain.
C'est de plus en plus rare.
Mon téléphone est dans la salle de bain et je bouquine.
D'accord. Charles. Parce que Charles, c'est un téléphone addict.
Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs super
sur les réseaux sociaux.
Mais oui, je trouve qu'on diabolise ça et on... Voilà, c'est pas pire.
5 ans de sa vie à scroller. 5 ans de sa vie à faire défiler les réseaux sociaux.
C'est pas pire que de regarder la télé de 15h à 23h, comme certains le font. Pour moi, c'est un peu la nouvelle télé, en quelque sorte. C'est un truc, c'est du divertissement. Au-delà de ce qu'a dit Abel sur l'aspect professionnel, auquel je souscris. Sinon, je trouve qu'il y a plein de choses très marrantes, très intéressantes sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça nous a un peu délivré de l'ennui quand vous faites la queue dans un magasin, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes plus là juste à vous emmerder ou à
ton cerveau, il a besoin d'ennui.
Bonne expression, ça nous a délivré
un
de l'ennui.
Un petit peu. Alors ça, pour le meilleur et pour le pire, parce que on dit par exemple que pour les enfants, c'est très bien de s'ennuyer, que ça développe la créativité et tout. J'en suis pas si certain. Moi, je ne diabolise pas les réseaux sociaux. Et je trouve que sur Instagram notamment, sur Twitter aussi, même si on ne sait plus, moi, je trouve que la vraie limite, c'est qu'on a vraiment du mal maintenant à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
Avec l'IA.
Les infos, les vidéos, les photos, ça devient compliqué de démêler ça. Mais sinon, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très drôles.
Il y a la marre des réseaux sociaux, du réseau social bashing.
Oui, il y a même de l'art parfois sur il y a beaucoup de photos d'art, de créativité. Voilà, moi je ne diabolise pas les réseaux sociaux. Je trouve que c'est souvent assez intéressant et ça permet en plus de comprendre un peu dans quelle époque on est. Il y a des humoristes très drôles. Je pense à Mogiz par exemple, qui a beaucoup explosé ces derniers temps. Le gars avec ses perruques, qui a vraiment saisi la souffrance au travail dans le secteur tertiaire.
Non, je connais pas.
C'est drôle, Alain, je t'invite à regarder.
C'est très drôle.
Il a vraiment compris ce que c'était que d'être salarié dans le secteur tertiaire et d'en subir toutes les externalités qu'on peut imaginer. Donc voilà.
Mais là, notre problème, c'est l'emprise.
Il y a un phénomène d'addiction.
C'est vrai.
La vie est une addiction. Moi, est-ce que je peux tordre le cou à ça?
Non, ce qui est vrai, c'est que c'est en train de tuer le livre. Quand même, faut le dire.
Et c'est en train de tuer le cerveau de nos jeunes aussi. Parce qu'on voit qu'avec l'hyperutilisation des téléphones, la capacité de concentration des jeunes, c'est une catastrophe. Tous les profs le disent. Et même certains adultes. Des fois, je peux me retrouver à envoyer un documentaire d'une heure. On me dit non. Moi, j'ai l'habitude d'être sur TikTok. C'est 5 minutes maximum. Trouve-moi une version de 5 minutes, même chez les adultes. Et puis, au niveau des temps de qualité.
On a du mal à se concentrer maintenant.
Oui, mais même, on ne sait plus passer du temps de qualité ensemble. C'est-à-dire qu'on ne sait plus apprécier un silence, par exemple. Un silence, ça fait du bien. On est souvent même à faire semblant.
Par exemple, le silence après les discours de Sébastien Lecornu.
Voilà, c'est encore du Lecornu.
Oui, non, c'est les gens qui dorment.
Beaucoup de gens font semblant, quand il y a un silence, de regarder leur téléphone comme s'ils avaient reçu un SMS, alors qu'ils n'ont rien reçu du tout en réalité. Donc il y a des dangers. Et effectivement, il ne faut pas diaboliser. Ce qu'il faut, c'est faire attention par rapport à la mauvaise utilisation de ceci.
Oui, mais moi, le côté addiction, la chasse aux addictions. Dans un pays, champion d'Europe des psychotropes, champion d'Europe de la consommation de cannabis et qui continue à boire beaucoup, ça me fait beaucoup rire parce qu'on est là sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a un réseau social bashing, on veut interdire au moins de 15 ans, c'est terrible. Enfin, tous nos problèmes viendraient des réseaux sociaux, tout ce qui ne fonctionne pas. Et,
tu vois quand même une jeunesse qui dégringole.
Ma grand-mère disait ça déjà de ses petits-enfants en disant « Regardez la jeunesse d'aujourd'hui, c'est un discours. » On a toujours dit que la jeunesse actuelle était moins bien que
celle
d'avant.
Ta grand-mère ne te disait pas d'arrêter de regarder des vidéos de viols, de meurtres et de décapitations sur Telegram.
Oui, d'accord, mais la santé mentale des jeunes, le Covid a plus
fait. Mais pas de drogue aussi facilement que maintenant avec les réseaux. Enfin,
il y avait les jeux vidéo, avant c'était pareil.
Les discours qu'on tient sur les réseaux sociaux, on les a tenus quand la télé est apparue.
Mais bien sûr.
Alain, on peut en témoigner parce qu'on a l'âge. Il y avait des débats sur la télé, ça va rendre nos enfants débiles, etc. Les jeux vidéo, maintenant, c'est la première activité culturelle en France. Et toi, tu es un gamer. Mm-hmm. Les jeux vidéo, ça nous rend complètement débiles. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu facile à chaque fois de s'inventer des choses terribles.
Là, les réseaux sociaux, le portable.
T'es quand même mieux à discuter avec des amis.
Ça dépend des amis.
Choisis les mieux, parce que moi, personnellement, les miens, je préfère mieux
mieux à regarder des vidéos sur Instagram.
Choisis vraiment tes amis, ou alors ta vie est très triste.
Les gens ne savent que discuter maintenant. Ça tape dès 18h, ça
tout dans les grandes gueules.
Ça discute et ça n'a rien à se dire. Non,
Denis voulait intervenir.
Il faut lire des livres.
Il est trop tard, je suis désolé, mon cher Denis, les GG, c'est fini. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Elle est en face de moi, elle me menace.
Ah oui.
Je la vois.
Denis peut en chasser un autre.
Estelle Denis, ma chère Estelle, voilà. Bonjour.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, nous, on va parler de cette décision du procureur de Toulon dénoncer les consommateurs de drogue à leurs employeurs. Pour ou contre, vous nous dites tout au 32-16. On parlera également de l'augmentation des tarifs de péage. Ça fait quand même 8% en 3 ans. Est-ce que vous trouvez que les autoroutes sont trop chères?
Elles sont bien entretenues.
Enfin, encore heureux avec le prix qu'on paye, Alain. Cela dit, il y a quand même des pays.
Serait aussi bien entretenu si c'était le public qui gère.
Quand il y a des travaux, tu payes le même prix. Quand il y a des bouchons, tu payes le même prix.
Tu voudrais des réductions.
Oui, je voudrais une réduction, en fait. Quand il y a des travaux sur l'autoroute et que je roule à 70 au lieu de 130.
Mais c'est pour l'amélioration future.
Mais je paye déjà pour l'amélioration
future. Oui, parce que le péage, tu ne payes pas pour rouler vite, tu payes simplement pour emprunter l'autoroute.
Oui, en fait. Oui, d'accord, mais en fait, si je vais aussi vite sur l'autoroute que sur une nationale, il y a quand même un petit problème. Donc voilà. Enfin, nous en parlerons à 13h40. Et puis, vous savez que c'est la Saint-Valentin.
Aujourd'hui?
Quand? Non, le 14. Non,
le 14 février, mais on prend toujours les devants dans Estelle Midi.
Chez le fleuriste.
N'allez pas chez le fleuriste maintenant, parce que ça vous sera fané du coup. Mais non, nous avons trouvé un sondage absolument incroyable. Sachez que la politique divise les couples. Il y a quand même 20% des couples qui se séparent à cause de la politique. Oui, quand t'as des opinions radicalement différentes. Ça vaut pas le coup. Oui. Par exemple, est-ce que tu verrais vraiment quelqu'un du RN avec quelqu'un des LFI? On voit pas bien comment ça peut durer 20 ans.
On va se retrouver.
Sur peu de sujets, quand même. Donc, notre question, vivre avec une personne aux opinions politiques différentes, est-ce que c'est mission impossible? Ou est-ce qu'au contraire, c'est génial parce qu'il y a de la complémentarité? C'est la question qu'on se posera à 14h.
Non, moi je pense que c'est tout à fait possible.
Ça animerait les
parce que l'amour est plus fort que tout.
Charles dit avec quelqu'un qui est proche d'Anne Hidalgo, par exemple.
Les opinions politiques, c'est très relatif.
Et le tu préfères, on n'a pas eu le temps de le faire hier. On avait un sommaire tellement dense. Crêpe ou galette, et comme la Chandeleur, c'est le 2. Écoutez,
il y a la Chandeleur, c'est le 2. La Saint-Valentin, c'est le 16, le 14. On anticipe chez Estelle Denis.
Ah, toujours. Et on va parler de Noël également, ce sera le 25.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.